mais tu peux récupérer une entre... Non, parce qu'il y en a une entre chaise et tu te mets juste là parce que pour laisser la place aux deux qui vont arriver au micro. Mais il y en a une. Bonsoir, eh bien nous sommes de retour dans le cadre d'Occitanie première et de l'émission Et si demain, et je retrouve avec plaisir mon ami Landis, c'est là, bonsoir. Au micro aussi Christian Moreto, bonsoir. Et puis notre chef à la technique, c'est Jean-Loup Arzac Fraisse, et sans lui, pas d'émission, donc nous le remercions. Puisque nous sommes repartis du bon pied en 2018 et au passage, nous vous souhaitons une bonne année, bonne santé et surtout que le monde change, mais dans le bon sens, nom d'un chien Milodiou. Nous saluons aussi Irène Finkel qui fait partie de la bande d'Occitanie Première qui est aussi dans le studio ce soir et nous attendons deux invités qui vont arriver. Sophie Borde pour nous parler de la montagne magique qui pourrait peut-être nous ouvrir les portes de l'espoir. Et si demain la montagne magique nous ouvrait les portes de l'espoir, c'est pour parler d'un documentaire qui sera diffusé le jeudi 11 janvier à 20h30 chez nos amis de l'American Cosmograph. Et auparavant, il y aura aussi une intervention avec la librairie Terra Nova. Et puis, nous aurons aussi Pascal Barbier, qui est un des porte-parole du collectif contre Val Tolosa. Donc, un projet sur le plateau de la Ménude à Plaisance du Touche et des batailles qui sont pour l'instant gagnées. Le pot de terre gagne contre le pot de fer. Et c'est tant mieux, ça nous rassure un petit peu. Et si demain, les dirigeants des transnationales arrêtaient de dévorer notre air et notre environnement? Voilà, ça ce sera le thème avec Pascal Barbier. Et en attendant l'arrivée de nos invités, au passage, je vous signale que le samedi 13 janvier à 20h30, la commission culturelle du quartier des Pradettes à Toulouse nous propose une représentation de théâtre occitan, Un Home Din La Nueti. Donc, je ne sais pas si je prononce bien, théâtre occitan surtitré en français et musique à la salle polyvalente des Pradettes, impasse Ferdinand de Lesseps, l'entrée est libre. Jean-Marc Leclerc, musicien et chanteur professionnel, et Marie-Hélène Cabrol, tous deux acteurs du Théâtre del Platanier, interpréteront un récit musical. La mise en scène est de Jean-Louis Blenet, donc du Théâtre de la Rampe. Ça, c'est le samedi 13 janvier à 20h30. Donc, à la salle polyvalente des Pradettes. Et ce même soir, le 13 janvier, à la salle des fêtes de Pain-Justaré à 21h, Marie-Cécile Fourès, qui était venue dans le cadre d'une émission Traversée un vendredi matin entre 10h et midi, nous avait présenté les nouvelles éditions qui sont les éditions du Carnet à Spirale. Elle jouera dans une comédie dramatique, Ceux d'en haut. Elle sera accompagnée par Marc Momy et Éric Ducroze. Et c'est une pièce qu'elle a écrite. Les réservations au 06 37 26 06 90. 06 37 26 06 90. Et puis, tu as peut-être lundi des infos à donner, pas encore.
Pas encore. Je suis prêt pour nos invités. L'un pour le feuilleton qui se poursuit en fait entre Val Tolosa, les noms de Val Tolosa, et le reste du monde. En fait, parce qu'ils sont plusieurs. Et après, notre amie Sophie, qui doit arriver assez rapidement.
Voilà, et qui est coincé dans des embouteillages pour l'instant. Alors, je vais en profiter. L'indicatif vous fait signer aussi de Damien Moreto. Voilà, donc c'est un indicatif original pour ici demain et traversé. Et donc, le président de la radio, Jacques Lavergne, a prêté un ouvrage très intéressant qui s'appelle « L'Empire de l'or rouge, enquête mondiale sur la tomate d'industrie ». C'est signé par Jean-Baptiste Mallet, aux éditions Fayard. Que mange-t-on quand on ouvre une boîte de concentré ? Eh bien, pas forcément ce que vous pensez, ce que vous croyez. Il y a la Chine qui rentre dedans, il y a l'Italie, il y a bien d'autres. Il y a aussi les États-Unis. Et je vais vous lire un extrait de l'ouvrage, parce que là, c'est un riche industriel qui est libertaire, mais un libertaire qui est pour, en fait, un libéralisme total. Donc ce n'est pas quelque chose qui correspond à l'émission « Et si demain ?». Mais je vais vous lire l'extrait, parce que ça en dit long sur la pensée de certains. Aux États-Unis, Chris Ruffer est une importante figure de proue du libertarisme. Libertarianisme, il faut le dire. Le nom de la Morning Star vient d'un vers de Henry David Thoreau, dont Chris Ruffer admire les idées individualistes. Le libertarianisme, philosophie politique née du libéralisme, a pour piliers fondamentaux la défense absolue du marché libre et sans entrave aucune. La propriété privée de la terre et des moyens de production, ainsi que la liberté individuelle, entre guillemets, aucune institution et surtout pas l'État ne doit venir s'opposer au désir des individus d'entreprendre et de s'organiser comme ils l'entendent. Tous les libertariens s'accordent pour rejeter les interventions de l'État, qu'il s'agisse des domaines économiques, social ou militaires. Toutes les régulations, à commencer par l'impôt, le droit du travail ou les normes environnementales, sont considérées par les libertariens comme nuisibles aux intérêts de l'individu, à son droit sacré et à la propriété privée, que rien ne doit entraver ni contraindre. Aux États-Unis, le plus connu des journaux libertariens, Reason Foundation, dont le slogan est « Esprit libre et libre marché », publie un rapport annuel des privatisations afin de traquer les dernières poches de services publics qui échappent encore au libre marché. Ces vestiges sont dénoncés comme devant être éliminés. Les libertariens appellent de leur vœu la privatisation totale de l'économie. Pour certains d'entre eux, l'armée, la police, les pompiers ou le corps des gardes forestiers devraient être remplacés par des milices privées dont chacun aurait la liberté de s'arrêter arracher ou non les services en fonction de ses besoins. Bien que bon nombre d'entre eux aient des affinités avec le Parti républicain, ces fondamentalistes libéraux ne sont pas des conservateurs, ce sont des industrialistes et des individualistes qui considèrent que la liberté de l'individu doit être totale, sans limite ni contrainte, qu'il s'agisse de posséder ou d'utiliser une arme à feu, de consommer et de commercialiser des drogues, de faire commerce de son corps ou d'avoir recours à la prostitution, de licencier des salariés ou pour le propriétaire d'un terrain d'y débuter une activité d'extraction minière, y compris si cette dernière est fortement polluante. Aucune restriction ne doit être imposée à celui qui entreprend ou développe une activité. La liberté individuelle est pour les libertariens un principe sacré dont le droit à la propriété privée est un prolongement naturel. Cette idéologie opposée à toute forme d'étatisme se structure autour d'une défense inconditionnelle du capitalisme. Suivant le précepte de la romancière Ayn Rand, les libertariens tiennent que l'égoïsme est une vertu. Chris Ruffer est un influent donateur du parti libertarien. En 2016, il a versé $1 million à la campagne de Gary Johnson, troisième homme de l'élection présidentielle américaine, qui a réalisé le score historique pour le parti libertarien de près de 4,5 millions de voix, soit 3,29%. Le jour de ma visite, ça c'est l'auteur qui le dit, de l'usine de Williams, lors du déjeuner avec Chris Ruffer chez Granzella, un bar pour cow-boys décoré d'ours ou de cobras empaillés, où l'on vend des affiches pro-armes et des casquettes brodées du slogan de Donald Trump, « Rendre à l'Amérique sa grandeur », le mania de la tomate m'a fait part de son admiration pour le fondateur de l'école de Chicago, l'économiste Milton Friedman, qu'il connaissait personnellement. Je l'ai rencontré plusieurs fois car nos épouses étaient amies. Milton Friedman était quelqu'un d'exceptionnel et je dois dire que j'ai rarement connu une personne aussi profonde. Oui, eh bien, nous, cette profondeur-là, nous ne l'apprécions pas dans le cadre de l'émission. Et si demain, nom d'un chien, c'est pas du tout, mais en tous les cas, l'ouvrage est intéressant. Donc, c'est de Jean-Baptiste Mallet, l'Empire de l'or rouge, enquête mondiale sur la tomate d'industrie aux éditions Fayard. Voilà, et nous avons donc une invitée, ça y est, qui a franchi tous les obstacles pour arriver jusqu'à nous. Bonsoir Sophie Borde.
Bonsoir.
Bonsoir. Bienvenue Sophie. Dans le cadre de l'émission Ici Demain. Merci. C'est ta deuxième participation. Donc, puisque toi, tu es la spécialiste des yeux dans les docks, alors qu'est-ce que quel bestio?
Alors, Les yeux dans les docks, c'est une émission... C'est, pardon, c'est non, pas c'est... une émission.
Non, c'est...
Je recommence, coupé, on va la refaire.
Non, c'est du direct. Hein. Non, mais tu ne touches pas les micros, pardon. C'est bon, là, comme ça.
D'accord, ça va comme ça?
Oui, oui.
Donc, en fait, Les yeux dans les docks, c'est un cycle de rencontres autour du cinéma documentaire qui a débuté en 2014 à la librairie Terra Nova, dans l'idée de faire découvrir le travail de documentaristes... peu diffusés par ailleurs, des auteurs qui ont un regard sur le monde et qui s'engagent, et qui ont un travail aussi de réalisation formelle.
D'accord. Et donc, jeudi 11 janvier, 20h30, il y aurait donc une projection du documentaire La Montagne Magique chez nos amis de l'American Cosmographe, mais avant un passage aussi à la librairie Terra Nova, peut-être.
Oui, c'est ça. Alors, en fait, à Terra Nova, le rendez-vous est à 18h. Au Cosmo, c'est à 20h30. À partir de 18h, on va voir un certain nombre de films courts ou de moyens-métrages documentaires, donc animés. Et il y aura des extraits. Alors, on va aborder le travail d'auteurs plus ou moins diffusés. Donc, on connaît Persepolis, Valse avec Bachir, mais on connaît un peu moins le travail d'Alain Huguetto, Jasmine. Le travail aussi d'une association, d'une structure toulousaine qui s'appelle L'Aménagerie. Ils ont fait...
qui était basé à Tournefeuille, je ne sais pas s'ils le sont toujours.
Voilà, en fait, leur atelier de, oui, de travail,
à l'usine.
C'est ça, c'est à l'usine. Et donc, ils ont réalisé plusieurs films d'animation. Et en particulier, il y en a deux qui ont trait à l'histoire, qui s'appellent Lettres de femme et Boléro Paprika. Donc, ils sont très, très intéressants. Lettres de femme, c'est un documentaire d'animation avec des petits personnages en papier. Et donc, l'histoire d'un facteur pendant la guerre 14-18 qui va épancher les blessures sur le front avec des lettres. Donc, il y a toute une symbolique sur la fragilité de l'humain et sur aussi le lien qui était maintenu grâce à la correspondance. Donc ça, c'est pour Lettres de femme. Et il y en a un autre qui est très beau aussi, qui s'appelle Boléro Paprika, qui a été réalisé en 2017, qui est sur un aspect de l'histoire qui est assez peu connu, sur l'enlèvement organisé de communistes en 1950 en France. Voilà, en fait, c'était la période de la guerre froide et donc des réfugiés du franquisme se sont fait enlever et déporter. Donc pareil, il y a eu un très très joli documentaire d'animation réalisé par la ménagerie à ce sujet. Voilà, et on va voir aussi un très 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 beau film d'une réalisatrice qui s'appelle Nadine Buss, qui s'appelle D'origine allemande, qui raconte l'histoire de son père qui est arrivé en Ariège en 1945. Donc à la fin de la guerre, qui venait d'Allemagne, est arrivé à 9 ans avec sa maman. Et pendant des années, il a jamais dit qu'il était allemand, il a transformé son prénom, et voilà. Puisque la thématique, c'est l'histoire intime au cœur de l'histoire, donc forcément, on rencontre des secrets, des blessures, et voilà. Voilà pour la programmation à 18h.
D'accord, lundi
Vous, en fait, vous êtes au cœur un petit peu de cette organisation. D'où vient cette idée, en fait, pourquoi maintenant, et l'idée de présenter tous ces, en fait, cette animation au niveau de votre journée?
Okay. Alors, pourquoi le documentaire d'animation? Pourquoi le cycle sur le documentaire?
Pourquoi le cycle?
Alors, le cycle sur le documentaire, c'était parce que je me suis aperçue que le documentaire d'auteur, ou ce qu'on appelle aussi le documentaire de création, c'est-à-dire qui a une démarche, un point de vue d'auteur, et pas juste un formatage télé avec une voix off qui nous dit quoi penser sur des images montées à la chaîne. Donc, ces films-là sont peu diffusés. J'ai essayé au départ de proposer un cycle dans un cinéma, mais on m'a expliqué que ça ne rapportait pas et que ça n'intéressait pas le public. Donc on m'a ouvert, la librairie Terra Nova a été tout de suite OK pour partir dans cette aventure autour de ce cycle. Et quand je le peux, il y a toujours donc des partenariats avec des salles, principalement l'American Cosmographe, parfois le Cratère. Voilà, et alors je ne sais pas si j'ai répondu.
Oui, tout à fait.
Voilà, et donc, est-ce que tu peux nous parler aussi du film qui est donc programmé chez nos amis, justement, de l'American Cosmographe, qui s'appelle La Montagne Magique, et c'est donc le jeudi 11 janvier à 20h30.
Oui, alors, La Montagne Magique, c'est toute une histoire. Donc, déjà, c'est un film long, il dure 1h25. Et c'est un film qui a été réalisé par une réalisatrice donc, qui s'appelle Anka Damian, qui avait fait auparavant un autre documentaire d'animation qui s'appelle Le Voyage de Monsieur Krulik. J'en parle parce que elle en a fait d'autres, des films. Mais là, ces deux-là s'inscrivent dans un projet de trilogie qu'elle a autour de ce qu'elle appelle l'héroïsme. Mais en fait, elle nuance, elle dit que ce n'est pas l'héroïsme au sens romantique du terme, mais c'est l'héroïsme au sens de l'engagement de l'homme, du sens qu'il donne à sa vie jusqu'à la mort, puisque dans l'histoire, dans le cas du voyage de Monsieur Krulik, c'est l'histoire d'un monsieur qui a été emprisonné suite à une erreur judiciaire et qui fait une grève de la faim jusqu'à en mourir. Et il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a rien eu. Donc en Pologne, on l'a littéralement laissé mourir. Donc elle s'est intéressée à ce personnage. Et ensuite, elle a réalisé La Montagne Magique. Alors, qui est un film très intéressant à plus d'un titre. D'abord parce qu'il s'inscrit sur une longue période de l'histoire, puisqu'il débute, le personnage principal, né à la fin des années 30 en Pologne. Il connaît le nazisme. Il y a pas mal de personnes de sa famille qui sont confrontées donc, au nazisme en Pologne. Et ensuite, il est aussi confronté à un assassinat massif de résistants, justement, au nazisme par les troupes soviétiques. Et donc, ça le révolte. Et dans les années 60, cette personne s'exile à Paris. Voilà, donc il côtoie les dissidents de l'Est. Et puis, dans les années 80, il va partir en Afghanistan au moment de l'essor de Solidarnosc. Il va aller s'engager aux côtés du commandant Massoud pour soutenir le peuple afghan qui, suite à l'invasion des troupes soviétiques en Afghanistan. Et donc, cet homme va combattre aux côtés de Massoud et il va mourir en 2002, donc un an après la mort de Massoud, puisque Massoud a été assassiné par des talibans et non pas par des soldats soviétiques. Voilà, et donc il y a eu les attentats du 11 septembre et il n'a pas supporté cette violence de l'histoire. Et donc cet homme qui s'est engagé toute sa vie s'est donné la mort dans les montagnes. Voilà pour l'histoire du protagoniste principal. Et ce qui est très très beau, c'est qu'à l'origine, il y avait un projet de film entre lui et sa fille, qui n'a pas vu le jour. Sa fille a voulu ensuite faire un film toute seule, mais elle est photographe, elle n'est pas réalisatrice. Donc le projet n'a pas abouti à ce moment-là et a été repris par une réalisatrice qui est donc Anka Damian. Et donc c'est très intéressant de voir comment ce film est devenu ce documentaire d'animation qui emploie de nombreuses techniques et aussi qui fait référence à toute l'histoire du cinéma de par son esthétique. Voilà, j'étais un peu longue, mais...
Ah non, mais c'est... Ici, dans l'émission « Et si demain », comme dans notre émission « Traversée », nous laissons aux invités le temps de l'expression. Je veux dire, ils ne sont pas coupés toutes les 30 secondes. Ce n'est pas l'objectif de l'émission. Lundi, une autre question à notre amie Sophie Borde.
Mais en fait, déjà l'histoire, en fait, on est déjà pris dans l'histoire. L'histoire est très très forte. Ça donne envie. Et maintenant, en fait, il faut attendre que les gens viennent. De toute façon, c'est assez prenant, c'est touchant. L'histoire, elle est remarquable. C'est pas de toute façon, chaque être humain, c'est une histoire à part. Et c'est là, elle est vraiment assez touchante. Notamment le retour. Je voulais pas savoir jusqu'à la fin en fait de nous raconter, mais c'est bien en fait. Je pense qu'on va faire un petit tour pour suivre et regarder parce que personnellement ça m'a déjà j'avais des chairs de poule d'entendre juste l'histoire en très peu de temps. Chapeau.
Nous saluons au passage l'arrivée de Pascal Barbier qui lui va nous parler d'un projet démentiel des Portes de Gascogne qui s'appelle aujourd'hui Val Tolosa. Bonsoir.
Bonsoir. Un ex-projet.
Hein. Un ex-projet, oui, puisque oui, parce que le collectif a gagné en Conseil d'État. Mais Sophie, ouais. Je crois que tu dois nous abandonner dans quelques instants. Donc nous terminons avec toi et après nous allons Pascal va prendre le relais. Mais Pascal, tu as peut-être des choses à dire par rapport à ce que vient de nous raconter Sophie.
Non, mais j'écoute avec passion, moi aussi, effectivement, cette histoire que je prends en cours de route.
Alors, Sophie, mais comment t'es venue comme ça l'amour du documentaire, du court-métrage ? Qu'est-ce que tu es tombée dedans parce que tu es toi-même réalisatrice ?
Alors non, pas du tout. Je ne suis pas réalisatrice. Et en fait, je suis venue au documentaire justement par le biais de l'histoire, parce que je me suis intéressée à l'histoire depuis très longtemps. J'ai fait des études de documentaliste archiviste spécialisée dans l'image. Et donc j'ai fait des stages à l'INA et puis dans des lieux où on crée du documentaire et où on le distribue, comme aux États généraux du documentaire à l'USAS ou à Paris à Documentaire sur grand écran ou à l'INA Toulouse, voilà. Et en fait c'est là que je me suis aperçue qu'il y avait, alors au départ j'étais venue par le biais de mon intérêt pour l'histoire et j'ai fait une recherche sur comment est-ce qu'on pouvait justement rendre compte du passé dans le documentaire et quelles sont les démarches esthétiques, éthiques et politiques des auteurs. Comment la forme rejoint l'engagement. Voilà. Et donc à partir de cette recherche, je me suis intéressée à beaucoup d'œuvres et j'ai rencontré des auteurs, leur travail. Et voilà pour et donc ensuite, comme je disais tout à l'heure, j'ai trouvé que cette forme-là n'était pas assez diffusée. C'est pour ça qu'ensuite j'ai voulu en diffuser. Voilà. Et alors je trouve que justement le documentaire animé, c'est très intéressant parce qu'on pourrait dire oui, mais l'animation, ça ne peut pas être documentaire, ça. Donc ça interroge aussi l'image, le statut de l'image, son rapport à la vérité, qui l'a dit, la vérité est autre chose que la fiction et la réalité. La fiction peut avoir de la vérité et la réalité aussi. Et les images, les prises de vue dites réelles, c'est-à-dire la captation sur le vif qu'on va prendre de quelqu'un, peut ensuite être remanipulée dans un documentaire ou dans un faux documentaire ou dans un film de propagande. Donc en fait, voilà, tout ça, c'est très intéressant. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de montrer en quoi l'animation peut aussi apporter quelque chose à cette forme-là. Je pense par exemple justement aux tonalités, l'humour, l'émotion, comment les auteurs utilisent l'animation dans leurs films, quelle forme ils choisissent aussi, puisque dans l'animation peut y avoir du dessin, du volume, etc. Et notamment dans Bolero Paprika, ce qui est très intéressant, donc le travail de Marc Ménager et son équipe de la ménagerie, c'est qu'il y a donc des marionnettes, donc des personnages animés, et il y a des quand à chaque fois que le passé est évoqué, on a du sable, du sable sur verre. Enfin voilà, bon, il y a énormément de choses à dire, mais c'est vrai que l'idéal, c'est de venir voir à la rencontre et puis au cinéma, l'un ou l'autre, puisque c'est indépendant, on n'est pas obligé de venir aux deux si on n'est pas disponible. Voilà ce que je peux dire.
Est-ce que tu peux nous rappeler justement les dates, les horaires et les lieux ?
Tout à fait. Alors, Premier rendez-vous à 18h, jeudi 11 janvier, à la librairie Terra Nova, pour une rencontre autour d'un programme de court-métrage ou de moyen des métrages d'animation, de documentaires animés, dont un film donc projeté intégralement qui s'appelle « D'origine allemande » de Nadine Buss. Ça, c'est à 18h. Et ensuite, à 20h30, à l'American Cosmograph, rendez-vous donc pour la projection de « La montagne magique » d'Anka Damian.
Merci pour ces précisions et nous saluons au passage Annie et Jérémy qui ont racheté l'ex-Utopia Toulouse pour le transformer en American Cosmograph et avec lesquels nous avons une coopération fructueuse. Merci d'être venu jusqu'à nous et au plaisir de te retrouver une fois par mois finalement. C'est ça mais c'est avec plaisir. Hein.
Eh ben, merci.
Parce que ce sont quand même des... Voilà, nous faisons du journalisme d'opinion, donc engagé. Et visiblement, ces documentaires, comme tu l'es, sont engagés.
Merci beaucoup pour cette invitation et à une prochaine alors.
Et au plaisir.
Merci Sophie.
À bientôt.
À bientôt. Et allez, je vous propose juste avant de parler avec notre ami Pascal Barbier, qui est aussi élu écologiste à Plaisance du Touche, eh bien, d'écouter Mélismel, et ça, c'est son plus récent CD, et ça s'appelle « Ma petite étoile ». À tout de suite sur Occitanie Première, dans le cadre de l'émission « Et si demain ?» Oui, alors, notre ami Mélismel a été censuré par je ne sais pas qui, d'ailleurs. Peut-être qu'il y a des écoutes qui ne sont pas... qui n'aiment pas ce type d'émission. Pascal, à la limite, tu peux t'installer là, au niveau de ce micro. Donc, Pascal Barbier, tu es un des porte-parole du collectif contre Val Tolosa et aussi élu écologiste à Plaisance du Touche. Je crois que Mélismel, c'est parti ou c'est pas parti encore? Oui, c'est bon. Allez, nous l'écoutons et après nous parlons de Val Tolosa. Nous reprenons. Allez. Du coup, ça fait quelques larcènes, mais ça, c'est normal. Nous repartons en 2018 et après, nous aurons... tout va bien fonctionner. Alors, Pascal, bonsoir. Eh bien, grosse victoire, là, du collectif.
Alors, oui, grosse victoire avec quand même derrière... on conserve beaucoup, beaucoup d'attention parce qu'on sait que la bête n'est pas à terre, même si elle a posé un genou. La bête est énorme. Elle vient de devenir la deuxième puissance commerciale du monde. Hein, une eBay, c'est vraiment une énorme affaire. Donc, voilà. Mais on a gagné, effectivement, récemment, en Conseil d'État, c'est-à-dire la plus haute juridiction juridique, on a gagné cette bataille contre un permis de construire qui a donc été déclaré illégal par les tribunaux.
Et c'est une bataille quand même du pot de fer contre le pot de terre, en tout cas, contre le pot de fer.
Oui, pour pas
départ.
Dire...
Mais après, il y a une mobilisation citoyenne, certes, oui. mais ça coûte cher aussi. Parce qu'il
faut oui. Qu'il y a des j'ai coutume de dire, pour le petit sourire, que c'est plutôt le combat du pot de terre contre le pot de vin, mais ça, c'est trop chose. Oui, c'est une bataille citoyenne, c'est une longue bataille citoyenne, puisque le combat a démarré il y a plus de 10 ans maintenant. Le recours contre ce permis de construire datait de 9 ans. Donc c'est vraiment une mobilisation massive de la population, des élus, certains élus politiques, mais aussi de la population, des citoyens, des commerçants également, qui sont tous très engagés. Et plus on avance dans ce, j'aime pas le terme de combat parce que c'est militariste, mais bon, j'ai pas trouvé de terme équivalent. C'est un combat pacifiste et non violent. Mais plus on avance dans ce combat, donc pacifiste et non violent, plus la détermination est grande de notre côté, du côté des opposants, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, nous avons raison. Nous avons raison. C'est plus le modèle de consommation que l'on veut pour demain. Ce n'est pas ce que l'on veut pour nos territoires naturels et agricoles périurbains. Voilà, donc faut trouver d'autres solutions. Elles existent et on les mettra en place.
D'accord. Je vous propose cette fois peut-être Mélis Mel. Nous pouvons l'écouter et après nous revenons en studio. À tout de suite, si elle veut bien partir. Non, toujours pas.
Ma petite étoile noire, quand tu reviens le jour, ton amour me dévore. Ta liberté en flamme, tout un ciel embrasé. Mes déchirures chelées, tu m'inondes de grâce. Des réponses s'y cachent, il ne reste plus rien que le terrible chagrin et la folie de plaire aux humains effroqués.
Loin dans les cages illusoires. porter ton histoire.
Écoute de l'émission Et si demain sur Occitanie Première, une émission que vous retrouvez tous les vendredis entre 17h et 18h avec aux commandes de la réalisation notre ami Jean-Loup Arzac-Fraisse et lundi c'est là Christian Moreto au micro, mais pas que, puisque nous avons en studio notre invité Pascal Barbier qui est donc un des porte-parole du collectif contre Val Tolosa mais aussi élu écologiste à la mairie de Plaisance-du-Touche.
Ouais.
Donc une bataille, en tous les cas, de gagner, même si elle est pacifiste, il faut quand même la mener. Et nous pouvons au passage saluer la mémoire de Progresso Marine, qui fut le président très actif et qui malheureusement nous a quittés aujourd'hui.
Tout à fait. Progresso qui a été l'initiateur de ce combat, puisqu'il faut l'appeler un combat, et qui en a été le constructeur, en fait, l'instigateur, l'aiguillon, et qu'on essaye dont on essaye de perpétuer la philosophie, en fait.
Lundi.
Quand on voit en fait le feuilleton, on est à combien aujourd'hui de procès, en fait, de jugements, et en fait ça me fait, en fait, vous, ça vous fait sourire, moi aussi j'étais en train, peut-être je fais un petit tour sur votre site et je regardais sur un communiqué de presse que vous avez sorti le 2 janvier et vous le traitez avec beaucoup d'humour et en fait comme si c'était en fait un match plutôt. Et avec un sixième carton rouge pour votre adversaire.
Oui, alors justement, c'est la couleur maintenant du collectif. Depuis quelques années, on a délibérément voulu utiliser le ton de l'humour, le ton de la légèreté, sachant que par derrière, c'est loin d'être léger. Notre action est très, très lourde, d'une part, et très sérieuse. Mais pour la faire passer auprès des populations, on a utilisé ce ton de la légèreté, de l'humour. Par exemple, encore cet hiver, on est allé faire un réveillon sur le plateau avec déguisé en clown pour s'amuser, toujours des nouvelles idées. Alors, sur la quantité de décisions juridiques, je ne sais même pas combien de procès ont été gagnés ou perdus, tellement ça s'accumule. On a eu un permis de construire qui a été retiré, puis un deuxième permis de construire qui a été contesté, puis annulé. On vient de confirmer son annulation. On a eu un troisième permis de construire qui a été déposé. Il y a eu des autorisations commerciales, des autorisations de destruction. Enfin, ça s'accumule les unes après les autres, et recours sur recours.
Alors, juste quelques phrases, est-ce que tu peux nous rappeler, pour éventuellement les auditrices et les auditeurs qui ne seraient pas encore au courant de ce qui s'est passé, d'où est partie l'histoire? Parce que ça fait plus de 10 ans, oui, qu'il y a cette bataille, avec une connivence entre Unibail, et avant c'était un autre porteur du projet, et le maire de Plaisance-du-Touche.
Alors, à l'origine, c'est un porteur de projet américain qui vient sur la commune de Plaisance et qui décide que l'espace naturel qui est là peut être propice à installer un grand centre commercial du style des grands malls américains des années 70-80. Et donc, il a contacté les élus, le maire de Plaisance, et avoir des milliers d'emplois comme ça, gratuitement, à volonté, c'était quelque chose de très... très attirant. Et donc, suite à ça, le projet a commencé à se former et puis c'est devenu donc les Portes de Gascogne. Les Portes de Gascogne, il y a eu très rapidement une opposition parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un territoire naturel. Donc le territoire naturel, nous, on veut le conserver. On en a encore besoin pour faire, par exemple, de l'agriculture périurbaine. C'est aussi un modèle de consommation qui est dépassé. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle, faut pas l'oublier. Aujourd'hui, il y a l'Internet. Aujourd'hui, on a besoin de manger local, de relocaliser nos consommations. Voilà. Donc l'opposition s'est formée, on a parlé de Progresso tout à l'heure, et très rapidement, ça s'est cristallisé contre ce projet. Et donc le porteur de projet américano-canadien a abandonné. Il a jeté l'éponge et il a vendu son affaire à un Européen, Unibail, qui a cru pouvoir facilement reprendre le projet. Et puis voilà, on en est là 15 ans après maintenant.
Alors dans ce projet-là, enfin ce projet un petit peu démentiel, il y a quand même bien sûr un risque en plus de faire mourir tout le commerce local. Mais en plus, ouais, j'ai des interrogations encore, parce que c'est du béton, c'est du bitume, donc des risques d'inondation supplémentaires aussi. Et une circulation automobile, n'en parlons pas.
Voilà, les quatre principaux problèmes de ce projet, on les a énumérés. Premièrement, effectivement, le commerce qui a déjà subi lourdement l'arrivée potentielle de ce projet, puisque les commerçants, les petits commerçants ont du mal à vouloir s'installer là où il y a une épée de Damoclès. Deuxièmement, comme tu l'as rappelé, effectivement, le problème d'inondation. On est dans une zone qui est encore une fois régulièrement inondée. Si on bétonne, on va accroître ce phénomène. Le problème de circulation qui est critique, vraiment critique, hein, puisque aujourd'hui on est en surcharge dans toute l'agglo. L'Ouest ne déroge pas du tout à la règle, l'Ouest toulousain, et donc effectivement on construirait un centre commercial avec beaucoup d'arrivées de voitures, sans transport en commun, sans infrastructure suffisante. Et puis le dernier point, c'était effectivement la sauvegarde de notre territoire naturel, agricole, périurbain, dont on aura besoin dans les années qui viennent, les dizaines d'années qui viennent, pour réinstaller l'agriculture de proximité. J'insiste sur ce point. On est en train de consommer dizaines d'hectares par dizaines d'hectares tous les ans, les espaces agricoles, périurbains. Autrefois, dans le nord de Toulouse, dans l'ouest de Toulouse, on avait des maraîchers qui cultivaient, qui la violette, qui, les pommes de terre, etc. Aujourd'hui, il n'y en a plus, et demain, on en aura besoin. On arrêtera de faire venir les haricots d'Afrique du Sud, les tomates du sud de l'Espagne, et on voudra revenir sur une agriculture locale.
Lundi.
Déjà, en fait, il a répondu à ma première question, parce que j'avais préparé une question, parce qu'un centre commercial à l'américaine, ça fait un petit peu rêver. Ça peut, normalement, ça devait susciter du prestige, envie, admiration. Et en fait, nous, ici, on dit non, on ne veut pas. Et voilà, donc j'ai ma réponse, pourquoi vous êtes contre. Donc Christian, il a lancé quelques pistes. Vous avez derrière... Parce que quand on regarde sur le Val de Tolosa, c'est très séducteur. On te cite déjà 3000 emplois. Je suis maire, je ferme les yeux, je signe de suite. Je dis, oh bon, Pôle emploi, il n'y a pas lieu d'exister. On embauche 3000 personnes, même s'il faut regarder avec une loupe vraiment où on va mettre ces 3000 emplois. Parce qu'on va le mettre peut-être dans ce centre commercial, mais derrière, vous citez les commerces qui mourront derrière. Il y a ce parc en fait, de 9 hectares qui va être occupé par du béton. Mmh. Globalement, l'espace vert va remplacer par l'espace urie, c'est pas...
Et aussi, les 3000, d'abord, je crois que les 3000 emplois, c'est juste pour la construction. On parle de 2000 emplois sur le centre commercial lui-même. C'est qu'un vœu pieux du promoteur. 2000 emplois théoriques. La réalité est moitié moindre, au minimum. Et puis, c'est des emplois précaires, c'est des emplois de basse qualité, quoi, par rapport à ce qu'on pourrait développer comme industrie et comme emploi valorisé localement.
Qui est pour ce projet ? Parce qu'en fait, je regardais un petit peu. Contre, c'est vous depuis le départ. Il y a France Nature Environnement. Oui. Il y a Nature Midi-Pyrénées.
Oui, et puis surtout des collectifs citoyens. Hein. On a parlé des commerçants, on a parlé des citoyens, des villes aux alentours, pas que Plaisance. Alors, ceux qui sont pour sont majoritairement des Plaisançois qui habitent Plaisance et qui sont dépendants du clientélisme de l'élu local qui a développé toute une stratégie clientéliste. Hein. Je te donne un emploi, je trouve un petit budget pour ton association, etc. etc. Enfin, ce qu'on appelle le clientélisme classique hein, du 19e, 20e siècle, qui perdure dans notre commune et qui crée des clients, c'est-à-dire des affiliés redevables et qui donc, bah, parce qu'ils sont affiliés redevables, sont bien obligés d'accepter certaines choses ou de fermer les yeux sur les réalités, hein, tout simplement. Les gens ne croient pas. Quand on leur dit, non, 2000 emplois, c'est pas vrai. Il n'y aura pas 2000 emplois. Les gens disent, mais si, puisque c'est marqué sur le papier, ce sera fait. C'est une certitude.
Et en plus, bon, tu parlais de locaux, etc. Mais il y avait aussi un projet de multiplex cinématographique contre lequel, à juste titre, semble-t-il, Écran 7, une association qui faisait vivre depuis plusieurs années le cinéma à Plaisance-du-Touche. Du coup, de ce que j'en sais, le maire de Plaisance-du-Touche a trouvé une parade et a fait quelque part a passé la main à une autre structure qui, elle, ne s'est pas opposée au multiplex. Donc c'est un jeu politique qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, Plaisance-du-Touche n'a plus de cinéma.
Oui, depuis plusieurs mois. Et ça, c'est un drame, à mon avis, parce que culturellement, comme d'un point de vue du tissu associatif, c'est vraiment une catastrophe. C'est une association qui vivait depuis 30 ans au sein de la commune et qui offrait un cinéma de qualité. Ça a été le plus gros cinéma monosalle indépendant de France, hein, en termes de nombre d'entrées, de tickets vendus. Donc c'était une affaire très rentable, très appréciée du public, avec des tarifs bas. Bon, ouais, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que c'est assez tordu, cette histoire-là. Au tout départ de l'histoire, c'est le conseil départemental qui possède des routes départementales, puisque c'est leur nom, c'est le conseil départemental qui possède ces routes, et deux des routes départementales traversent l'emprise du projet. Donc le projet ne peut pas se construire si les routes en question ne sont pas cédées du département vers le privé. Or, jusqu'à présent, jusqu'à le changement de présidence au département, on avait l'accord tacite et bienveillant du président du département. Changement de président, le président décide que ça va pouvoir se faire, etc. Sauf que pour que ce soit habillé, il demande au promoteur de changer son projet, de lui donner un volet culturel. Soi-disant, ça donnerait quelque chose de plus magnifique. Et donc, le porteur de projet développe une nouvelle dimension au projet avec un cinéma multiplex, comme on voit les CGR, les méga CGR et les Gaumont, etc. 11 ou 12 salles, je crois. Du coup, effectivement, le cinéma local associatif serait en concurrence et serait forcément frappé d'essais immédiats sur ce projet. Il s'est opposé, il a porté un recours. Il a gagné le recours contre ce multiplex et donc le multiplex ne pourra pas se faire. Le maire a été tensé de mettre la fin à ses recours en prenant les dispositions nécessaires. Et la disposition qu'il a prise, elle est très simple. On remplace l'association par une association bienveillante, créée pour l'occasion, avec juste 6 personnes, une association juste de 6 personnes pour remplacer 30 permanents et 50 bénévoles. Et donc, du coup, voilà, la nouvelle association a obtenu le visa d'exploitation sur ce cinéma et ne l'exploite pas. Disparition du cinéma à Plaisance en attendant un hypothétique, puisqu'il n'y reviendra jamais, mais bon, en attendant un hypothétique multiplex concurrent des CGR et des groupes. Oui,
comme s'il n'y avait pas assez de multiplex, comme s'il n'y avait pas assez d'hypermarchés en Haute-Garonne.
Il fallait en fait qu'ils apportent une modification à leur projet. Et je regardais un petit peu dans le dossier, le Conseil national de protection de la nature, la CNPN, c'est pour ça en fait qu'ils ont donner un avis favorable la deuxième fois en juillet.
Alors ça, c'est un petit peu différencié. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce qu'on appelle donc le CNPN, qui est une instance nationale de protection des espaces naturels.
D'ailleurs.
Tout à fait. Rattacheux, c'est l'expert du ministère de l'écologie, a été sollicité et ressollicité et ressollicité et ressollicité pour autoriser à détruire des espèces protégées. Détruire des espèces protégées. On est bien sur des demandes de destruction d'espèces protégées. On demande des dérogations. La première fois, il refuse, il motive. La deuxième fois, il refuse, il motive. La troisième fois, il refuse, il motive. Et puis, à la fin, ils ont fini par dire, bon, on en a marre, ça revient. On va donner un avis favorable avec des réserves très importantes et puis on n'en entendra plus parler. Sauf que le préfet a retenu avis favorable. Il a oublié les réserves qui sont très importantes et qui n'ont pas été garanties. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le préfet a délivré pour la deuxième fois une autorisation de destruction illégale, non conforme à l'avis de l'expert.
D'accord. Aujourd'hui, à la tête du ministère de l'écologie, donc on a Nicolas Hulot.
Oui.
Est-ce que, pendant la période qu'il n'était pas ministre, est-ce qu'il s'est positionné sur cette affaire ou pas ?
Alors, là aussi, je vais apprendre un petit peu de précaution de langage là-dessus, parce qu'il s'agit quand même de Nicolas Hulot, un ami. Donc, on l'a sollicité. On lui a envoyé officiellement un courrier pour lui indiquer que effectivement ces décisions qui ont été prises en son nom en tant que ministre étaient des décisions illégales et que donc il devait les annuler, les retirer. La réponse qu'on a eue a été un petit peu tardive. Bon, c'est vrai qu'il a été beaucoup sollicité sur beaucoup de dossiers ces derniers temps. Et comme la réponse était tardive, la réponse en substance a été bon, bah, les délais étant passés, maintenant on ne peut plus retirer cette décision d'autorisation de destruction. Mais comme il y a des recours aux tribunaux, on est confiant que les recours vont de toute façon aboutir positivement dans ce sens-là. Voilà la réponse qu'il a donnée. Un petit peu du bottage en touche. Pour parler un peu plus cru.
Oui, nous pouvons nous demander si effectivement Nicolas Hulot n'est pas pris en otage par ce gouvernement, puisqu'il a reculé sur le nucléaire. Sans doute, nous l'attendons au tournant concernant Notre-Dame-des-Landes.
Voilà. Bon, je voulais pas prendre ces terminologies-là, mais effectivement, c'est bien ça. Je pense qu'effectivement, il y a les arbitrages, comme on dit de manière plus politiquement correcte. Il y a des arbitrages et voilà, à un moment donné... Non, on en a discuté, pour être un peu plus franc là-dessus, on en a discuté et la réaction, c'est qu'effectivement, plutôt que de s'affronter, je parle de Nicolas Hulot, à un gouvernement qui est anti-écologique, hein, il faut le savoir, il préfère, on va dire, manœuvrer à l'intérieur du système pour faire avancer les dossiers au mieux. C'est sa stratégie. Ce n'est pas forcément celle que j'aurais adoptée si j'avais été à sa place, mais je suis loin d'être à sa place et d'avoir tous les éléments en ma possession pour réfléchir. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il voit les choses et je pense qu'effectivement, c'est une stratégie qui se justifie.
Mais quand le président de la République invite pour justement se pencher sur l'avenir planétaire Bill Gates, et que ce fameux Bill Gates, qui est pro-OGM, entre autres, qui a cofinancé la banque qui a mis de côté des semences paysannes, les vraies, donc il se dit défenseur, il est là pour défendre la planète, je m'interroge.
Bah, on est bien dans cette question de l'arbitrage, exactement. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a les paroles et il y a les actes, il y a les faits. Ce que me dit le cabinet du ministre, c'est qu'effectivement, dans les faits, sur le terrain, sur les dossiers, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui bougent. Sur les déclarations d'intention, sur les déclarations nationales, bon, bah, ce ne sont que des paroles, ça n'a pas forcément des grandes conséquences. C'est ce qui est dit. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que de l'autre côté, les paroles ont souvent d'énormes conséquences sur les peuples et sur la façon dont des Donald Trump ou des Poutine se comportent.
Oui, juste une petite anecdote, en fait, parce qu'on parlait tout à l'heure de commerce qui subit, en fait, alentour. C'est le même, en fait, Unibail et Randamco qui reprend, en fait, vos arguments par rapport à... pour combattre un centre commercial Europa City. Ça en fait... Que pensez-vous, en fait, de ça? Parce qu'en fait, vos arguments aujourd'hui, ils sont en face et ailleurs, en fait, pas très loin, parce que c'est dans la région parisienne,
je pense.
C'est
ça, Gonesse.
Gonesse, voilà.
Alors, effectivement, c'est...
Ils sont plus gros.
À Gonesse, le projet, c'est un centre commercial trois fois plus gros que Val-Tolosa. C'est démesuré, gigantesque. Il y avait même une piste de ski qui était prise vu indoor, hein, avec une descente, etc. Pour ça, ils ont abandonné parce que ça faisait quand même trop anti-écolo. Mais alors sur ce gros projet, où effectivement c'est un concurrent d'Unibail qui porte le projet, Unibail a des intérêts à très très proximité. Hein. Il y a des centres commerciaux à proximité d'Europa City, du terrain d'Europa City, et donc ils se défendent et comme tout le monde, hein, ils utilisent les arguments qui sont là, c'est-à-dire les emplois que vous annoncez ne sont pas des vrais emplois, il n'y a pas les quantités que vous annoncez, il n'y aura pas les transports nécessaires, même si le métro express là, va être construit, ce ne sera pas suffisant, etc. Enfin, tous nos arguments sont développés les uns après les autres, comme on l'a fait, nous, à la fois en justice et dans les médias. Eh bien, Unibail a développé un dossier qu'il a porté avec les opposants contre ce projet. C'est assez amusant, effectivement.
Oui, ça fait d'utiliser le même argument. Hein, donc
un prêt, c'est un industriel. Hein, l'industriel, il a un objectif, c'est de gagner de l'argent. C'est ça, sa mission. Hein, donc, on ne peut pas reprocher à un industriel de vouloir gagner de l'argent. Nous, ce qu'on dit, c'est ce qu'on reproche surtout, ce sont les élus. Les élus d'hier, les élus du XXe siècle, les élus passéistes, qui restent encore ancrés sur un vieux modèle de société qui n'est plus le modèle de société du XXIe siècle. Aujourd'hui, la consommation, elle a changé. Aujourd'hui, nos aspirations sont différentes. On a besoin de recréer du lien social local. On a besoin de relocaliser notre consommation et notre production agricole. On a besoin de créer de l'emploi de qualité. Bref, tout ça, c'est complètement absent. Juste une chose, un chiffre qui est très très simple, dans la comptabilité de la commune de Plaisance, comme dans la comptabilité de toutes les communes, il y a une analyse ventilée par activité. Il y a 9 grandes activités comme le scolaire, le social, etc. Et il y a une colonne, c'est la colonne développement commercial, développement économique, pardon. Cette colonne développement économique, le chiffre du budget en bas de la colonne, tenez-vous bien, il est de 0,0 euro. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul centime investi par la commune dans le développement économique. La commune, depuis 20 ans, espère gagner un développement économique avec ce projet extérieur mené par des grands industriels.
Qui apporte 5 millions d'euros de taxes foncières chaque année.
C'est complètement une fake news, comme beaucoup d'autres, comme la quantité d'emplois créés. On n'a pas 2000 emplois créés, on a des emplois déplacés, peut-être 900 emplois déplacés, pas créés. On n'a pas 5 millions d'euros de revenus. On a déjà dépensé tous ces euros. Rien qu'un autre. Alors là, c'est un chiffre plus conséquent. On va construire une route départementale. Là, on est en train de passer les appels d'offres dans cette commune pour construire une route départementale qui va alimenter le terrain de cet hypothétique projet. Donc une route qui va, pour l'instant, desservir les lapins. Ce projet, ce budget, c'est 12 millions d'euros. 12 millions d'euros, c'est l'investissement, c'est plus que l'investissement d'une année de la commune. 12 millions d'euros, c'est plus que la masse salariale de la commune. C'est hallucinant. La commune va dépenser une somme faramineuse d'argent pour créer une route départementale qui servira à personne, éventuellement, hypothétiquement, qui servira à un promoteur privé de gagner de l'argent. Voilà où on en est. Et ça, ce n'est pas du développement économique. Ça, ce n'est pas des impôts qui viennent, c'est de l'argent qui sort.
Aujourd'hui, vous le voyez comment, en fait, l'avenir ? Vous attendez, en fait, vraiment la solution qui vient d'un ministre, d'un préfet, de départ un petit peu volontaire
Justement, c'est ça qui m'intéresse dans le titre de l'émission, c'est que justement, ce qui m'intéresse, moi, toujours, c'est demain. Demain, qu'est-ce qu'on fait demain ? Et qu'est-ce que moi, en tant qu'élu, comment je vais me positionner pour participer à cet avenir demain de la population ? Alors, l'avenir de notre économie locale à Plaisance du Tout, demain, ne dépendra pas des ministres, ne dépendra pas des tribunaux, etc. C'est nous, les citoyens, et nous, surtout les élus, qui devons prendre en main notre destin. C'est vraiment important. C'est pour ça que je m'étais présenté en 2014 aux élections municipales. J'avais l'intention de succéder au maire actuel pour justement offrir un nouveau modèle de société, un modèle de société orienté vers l'avenir, vers la modernité, vers le tissu social, vers le vivre ensemble, vivre mieux et vivre ensemble. Et c'est ça que on va encore une fois proposer aux prochaines élections municipales, aux citoyens. D'ici là, le projet n'aura pas avancé, puisque de toute façon, il est engoncé dans des arguties juridiques. Donc, on aura le temps, à cette période-là, de décider d'arrêter tout, de proposer éventuellement aux promoteurs d'aller chercher des projets ailleurs ou de nous aider à développer l'économie locale sur d'autres moyens, des moyens modernes, des moyens de demain, pas des moyens d'hier.
D'accord. Merci beaucoup et bon courage.
Allez, un dernier mot, qu'est-ce que j'ai envie de dire encore ? Peut-être signaler, enfin dire comment accéder notamment au site du collectif contre Val-Tolosa ?
Alors, c'est assez simple, hein. Il suffit de chercher Val Tolosa ou Garderem la Minute, puisque c'est notre emblème. C'est le nom du site, Garderem la Minute. Ça fait résonance avec le combat des années 70 dans le Larzac. Donc, il suffit de taper sur Internet Garderem la Minute ou de taper Val Tolosa. On trouvera le site du projet Val Tolosa, mais on trouvera aussi notre site internet où tout est détaillé, tout est expliqué. Juste un petit mot, on a dépensé beaucoup, beaucoup d'énergie, mais surtout beaucoup d'argent dans ces combats juridiques ces derniers temps, surtout cette année et l'année précédente. L'année dernière, on avait fait un appel de fonds qui avait très bien fonctionné. Cette année, on a relancé cet appel de fonds qui a aussi assez bien fonctionné. Mais on va encore avoir besoin des énergies. Alors, les énergies sur le terrain, pour l'instant, c'est calme, mais ça va revenir. Et puis, un peu d'argent. Donc c'est toujours bon de le dire.
D'accord. Merci Pascal Barbier, donc porte-parole du collectif contre Val Tolosa, mais aussi élu écologiste Europe Écologie Les Verts à Plaisance du Touche. Merci Jean-Loup pour la réalisation. Merci Landy. Nous vous disons à la semaine prochaine entre 17h et 18h et je vous donne aussi rendez-vous vendredi matin entre 10h et midi pour l'émission Traversée. Bye bye, à très vite.
Sur le balcon, le vent s'engouffre dans la maison. Les volets claquent vers la mer. C'est l'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps.